Donc on va maintenant se retrouver avec notre revue de presse, ou de dépresse plus exactement, au niveau comics. Alors je vais commencer par Marvel et une grande devinette. Si je vous dis la liste de titres suivante, je vous demande de trouver le point commun. Anita Blake, The Lost in Corps, Necromancer numéro 1 sur 5. Ultimate Wolverine vs Hulk numéro 4. Ultimate Wolverine vs Hulk numéro 5. Wolverine Noir 1. Amazing Spider-Man 590. Amazing Spider-Man 592. New Avengers 52. Dark Avengers 4. Secret Warriors 3. Agent of Atlas 3. Miss Marvel 38. War Machine 5. Incredible Hercules 128. Wolverine's Origins 35. Astonishing Tales 3. Captain Britain on the My 13 12. Marvel's Eye of the Camera 5. Ghost Rider 34, Daredevil 118, Hulk 11, Marvel Assistant Size et Spectacular 2, Exiles 1, Runaways 9, Wolverine Magazine 1, Marvel Adventures et Avengers 35, Marvel Triple Action 1, Official Index to the Marvel Universe 4, Astonishing X-Men numéro 29, Uncanny X-Men 508, Moon Knight 29, Wolverine 72, Wolverine Weapon X 1, Wolverine Weapon X-Files, Wolverine The Anniversary, Rampaging Wolverine 148, X-Men Legacy 223, X-Force 14, Wolverine First Class 14 et X-Men Origins Wolverine 1. Bon, ok. D'habitude, je fais un seul titre dans la revue de dépresse, voire deux. Et là, je vous en ai un peu tapé 39. Alors, qu'ont ces 39 titres en commun ? Ils ont tous, dans les pages ou sur la couverture, le personnage de Wolverine. Si vous n'avez pas compris qu'un film sort au mois d'avril, vous n'avez rien compris. Parce que déjà, il est présent à peu près partout en temps normal, et là, ils nous font des couvertures alternatives avec Wolverine dessus, même sur des épisodes où il n'est pas, ce qui est le cas par exemple des épisodes d'Ultimate Spider-Man, de Spider-Man ou de plein d'autres séries. Déjà qu'on a maintenant deux Wolverines, s'il y en a un gentil et un méchant qui a pris le costume marron et qui se fait passer pour lui, je ne vous en dis pas plus pour ne pas effectivement vous spoiler trop. Mais bon, voilà, deux Wolverine en action, des tas de séries Wolverine, des rééditions de Wolverine, des sourcebooks sur Wolverine, des couvertures sur Wolverine, et si vous n'aviez pas assez, des nouvelles séries sur Wolverine. Moi, personnellement, je ne suis pas non plus le fan numéro 1 de Wolverine, mais 39 sorties sur le mois sur un seul personnage, ça commence à faire énormément, c'est quand même à peu près les deux tiers des sorties, et encore là je vous ai épargné tous les TPB qui sortent ce mois-ci où Wolverine est dedans. Donc les séries Wolverine, les TPB Gambit où on nous annonce qu'il y a Wolverine, et tout. Donc voilà, il en manque peut-être encore, ils sont peut-être capables de nous faire une ou deux couvertures supplémentaires dessus. Donc voilà, pour ceux qui en ont marre de Wolverine, surtout hiberner jusqu'au mois de juin, le temps que ça se calme, parce que là on va en bouffer mais à toutes les sauces. Je ne sais pas comment Panini va faire en France, mais je pense aussi qu'ils vont nous lancer énormément de titres dans les temps qui viennent. Voilà. Donc, tout ça, il y a quand même des choses à noter. Hein. Bon, on va passer sur les couvertures, parce que même Anita Blake n'a rien à voir avec l'univers Marvel, il y a des couvertures. On a quand même annoncé Astonishing Tales, donc, qui est une série... une série anthologique qui reprend la suite de Marvel Comics Presents qui s'est arrêtée très vite. Donc là en fait c'est le Wolverine et le Punisher qui sont dans une histoire courte à Madripoor, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Sinon eh bien, il y a donc la nouvelle série Wolverine Weapon X par Jason Aaron et Ron Garney qui reprend en fait la suite de la série Wolverine qui elle s'arrête puisque la série devient Dark Wolverine et se penchera donc sur le personnage qui se fait passer pour lui. Donc voilà, et puis bon, toujours X-Men Origins, donc ça évidemment c'est l'adaptation du film, toutes les équipes dans lesquelles il apparaît et celle où il apparaît pas, donc sur la couverture, on l'a bien compris, c'est un peu too much à mon goût. Je ne sais pas s'ils vont vendre beaucoup plus grâce à des couvertures alternatives sur Wolverine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les bouquins où il va être présent, il devrait quand même cartonner à ce moment-là. Donc voilà, c'était la seule chose pour Marvel, parce que bon, j'en ai déjà fait 39. Bon, je les ai fait vite, hein, mais j'en ai fait 39, donc on va passer ensuite aux autres gens. Donc d'abord, il y avait deux choses, moi, qui m'ont chagriné chez DC. On va continuer avec DC. La première chose, ça va être Justice Society of America numéro 26. Dernier épisode de Geoff Jones. Alors, il avait fait quand même près de 80 numéros sur le premier volume. Là, il vient d'en refaire 26. Autant le premier volume, c'était très bon et on y prenait plaisir tout le long. Autant sur ce volume-là, moi, j'ai énormément de mal à apprécier parce que il y a quand même beaucoup de Alex Ross dedans et que Alex Ross n'est pas le plus grand des scénaristes que le monde des comics ait inventé. Ouais, un peu moins fort. Donc, beaucoup de Alex Ross et donc il nous était revenu avec une saga qui s'appelait Kingdom Come qui vient de s'achever aux États-Unis. Déjà le problème que j'ai un peu avec cette saga, donc avec le retour de GOG, c'est que le dernier arc, fait quand même 7 épisodes plus 4 doubles, ce qui commence à faire beaucoup, pour nous raconter ce que Claremont avait fait nettement mieux en 2 doubles dans la série X-Men Alpha Flight, la première par Paul Smith, qui elle était vraiment à noter et à conserver. Donc voilà, grosse déception par rapport à ça. Sur cette série, les nouveaux scénaristes, ce seront donc ceux de la série House of Mystery chez Vertigo, donc Sturge et l'autre, donc encore plus connu, son nom m'échappe, c'est pas bien grave. Donc voilà, ils vont reprendre la série à partir du numéro 27 au mois de mai. On s'achève donc avec ce numéro 26 sur une petite déception sur une série qui quand même avait du potentiel au départ. Donc la deuxième série dont je voulais vous parler, c'est une série limitée en 3 parties chez Vertigo. Et la question essentielle, c'est pourquoi faire une suite à quelque chose dont on n'a pas compris le intérêt. La série dont je vais vous parler s'appelle Seagai, The Slave of Mickey. Alors Grant Morrison et Cameron Stewart nous refont cette série. Alors c'est une série complètement loufoque qui est sortie en 2004 pour la première et donc à laquelle on nous fait une suite. C'est un monde très cartoony où tout le monde est super-héros, personne ne meurt. Enfin voilà. Et donc notre héros de la série est habillé toujours en plongeur, d'où le nom de Seagai. Et a un poisson volant qui fume le cigare derrière lui. Un espèce de truc de dessin animé des années 70. Personnellement, je les ai lus. J'ai pas vraiment accroché, c'est un euphémisme. Alors je sais, on va me dire, je ne suis pas un amateur de Morrison, je critique toujours ce que fait Morrison. Et bon, c'est pas vrai, il y a des choses que j'aime bien de chez Morrison. Mais là, sur Seagai, j'avais pas vraiment accroché. Et autant il y avait des séries qu'on nous a annoncées et dont on a envie de voir la suite chez Vertigo, par exemple la deuxième série de Blood and Water de Junior Winnick, qui a été annoncée voici bien longtemps, ou la fin de la série Otherworld de Phil Ramirez. Donc ça, c'est vraiment des séries dont j'attends la fin ou la suite, mais non, sur Seagai, non, définitivement, j'attendais pas la suite, vraiment pas. Et ben voilà, c'est un peu une déception. On va passer ensuite à deux autres séries, donc avec Dark Horse et Image. Alors, est-ce que je commence par Dark Horse ou est-ce que je commence par Image ? 17, pardon. Bon, c'est bien la première fois que je vous mets Rex Mundi en dépresse. Et pour cause, c'est la première fois que Rex Mundi s'arrête. La série était donc commencée chez Semic à l'époque, dans un premier tome excellent. Donc série qui se passe à Paris dans une espèce d'Uchronie qui se passe à la fois au début du siècle et pendant l'Inquisition, et surtout série qui a eu de multiples rebondissements. Au départ, on partait sur quelque chose qui ressentait vraiment l'énigme policière à fond, et au bout d'un moment on se demandait effectivement où ça nous menait, et bien là on a un peu la réponse. La série, après avoir été donc sur le thème effectivement de cette inquisition et sur un polar politique, était revenue sur des bases totalement différentes, avec une anticipation et une dénonciation du nazisme à travers le duc de Lorraine, et donc sur une politique française monarchiste qui dérivait vers le Troisième Reich. C'était assez étonnant. On a sur ces derniers épisodes un retour sur un concept différent, puisque on va arriver sur quelque chose qui revient donc à la magie, et on revient donc sur la quête du Saint Graal, qui était quand même le fil tendu depuis le début de la série. Donc ça clôturera donc le cinquième trade paperback de la série Rex Mundi. C'est toujours Juan Ferreira qui dessine, donc ce n'est pas lui qui dessinait le premier tome qui était sorti en France et qui était par Eric J. Et là, Juan Ferreira, vous l'avez surtout vu sur la série Small God, sortie chez Delcourt, qui était chez Semic, pardon, et qui était effectivement un petit chef-d'œuvre. Donc Rex Mundi, c'est quand même à lire. Il y a trois premiers tomes qui étaient sortis chez Image. Là, ça va en faire deux ou peut-être même trois chez Dark Horse. Je dis ça, mais je crois que c'est trois tomes sur les 17 numéros. C'est vraiment une des grandes séries à lire. Une des rares séries américaines se passant en France où c'est vraiment documenté, où du premier coup d'œil Notre-Dame ressemble à Notre-Dame. Enfin, un truc effectivement assez bien vu, et surtout qui est totalement ovniesque. On n'avait pas vu ce genre de série depuis longtemps. Donc le deuxième titre dont j'avais l'intention de vous parler aujourd'hui, ce n'est pas proprement un ovni, sauf que c'est un ovni de relancer ce genre de choses. On retrouve une équipe qui a fonctionné il y a longtemps, ils étaient très fâchés, et là ils reviennent à bosser ensemble. Jeff Lubb et Rob Liefeld nous écrivent un one-shot qui s'appelle Smash Unleashed. Smash Unleashed, ça ressemble quand même franchement à un projet Liefeld que Marvel lui aurait refusé, sur un géant vert qui du coup est devenu violet en changeant d'éditeur. Pourquoi nous pondre ce one-shot? Pourquoi nous déterrer Jeff Lubb? Tout le monde se pose la question. Bon, en même temps, pourquoi déterrer Rob Liefeld, à part parce que c'est lui qui est le chef et qui a les droits du personnage? Voilà. Donc, il dessine, il fait la couverture. C'est un one-shot de 32 pages à 2,99€, dont je vous déconseille d'attendre quoi que ce soit. Ça peut juste valoir le coup si vous êtes un peu médisant et que vous avez envie de rigoler en voyant l'annulité de ce truc. Donc là encore, on n'est pas vraiment... on a donc deux titres à chez chacun des deux éditeurs. Ce sont quand même pas forcément des choses qui vont faire hurler, vous allez me dire. S'il y a des gens qui veulent acheter Smash Unleashed, c'est bien. Mais j'aurais quand même franchement préféré qu'ils continuent à acheter Rex Mundi pour que ça continue. On va donc maintenant passer à la quatrième et dernière partie de cette revue de Dépresse, avec dans un premier temps ce qu'il fallait voir ou ne pas aller voir pour s'énerver chez les indépendants. Le premier truc dont je voulais vous parler, c'était quand même Female Force, avec encore un numéro. Alors si vous n'aviez pas marre d'avoir eu Sarah Palin et l'ex-première dame Hillary Clinton, pardon, le troisième numéro sort avec Michelle Obama. Donc bon, il y a un moment où il faudrait peut-être arrêter de nous faire des trucs un peu trop patriotiques. Alors je sais qu'on n'est peut-être pas la cible idéale, mais c'est un peu too much. Est-ce que vous nous imaginez faire des bandes dessinées Michel Alemari, Christine Boutin? Non, pardon, excusez-moi. Voilà, donc les Américains sont quand même des gens qui ont le patriotisme chevillé au cœur. Alors, autant quand IDW nous faisait les deux présidentiables, pourquoi pas. Là, quand on nous sort quand même une série sur les femmes, parce qu'on n'avait pas les droits pour les messieurs, c'était déjà pris, et qu'en plus on plagie les couvertures qu'avait fait IDW sur les deux premiers titres, c'est un peu too much à mon goût. Donc là-dessus, un mauvais point. Et puis, la deuxième chose qui m'a un peu énervé, c'est la série Wildcard The Hard Call, qui est une série que je fais, qui est donc adaptée du roman de George Martin et écrite par Dan Abrahams, avec des dessins d'Eric Battle. Oui, pour ceux qui veulent encore râler, oui, je reconnais Éric Battel, c'est bien celui qui a massacré, enfin qui a fait des épisodes catastrophiques d'Aquaman par Eric Larsen. En même temps, je tiens à dire à ça pour sa défense qu'Eric Larsen était à mon sens pire qu'Éric Battel. Donc sur ce morceau, bon. Et voilà, donc c'est moi ça m'a un peu énervé de voir ça. J'ai trouvé qu'on pouvait nous faire quand même franchement mieux. Là, pour ce qui est de la série, ce qui m'énerve, c'est un peu la sortie. Donc il faut savoir que les 3 ou 4 derniers épisodes, les 3 derniers, sur une série en 6, ont pris près d'un an de retard. Donc là, on nous ressort les numéros et on nous sort le même mois le TPBD 1-6 et le numéro 6. Et c'est quand même le genre de truc qui est pas franchement très sympa pour les libraires, parce que fatalement ceux qui ont commandé les premiers numéros, ils se retrouvent un peu dans le mouise où tout le monde dit ben, finalement j'ai atteint le TPB. Bah oui, là ils vont avoir du mal à vendre les 3, 4, 5. Ça aurait peut-être été plus sympa pour les libraires de faire un tirage juste avec ceux qui étaient déjà sortis dans un format pas cher pour relancer la série. Mais non, là ils ont préféré passer directement sur cette version TPB. On l'a échappé belle, on aurait très bien pu aussi ne pas avoir du tout la fin en fascicule. Mais bon, ça fait partie des choses qui ne sont pas très classe pour les libraires. Et donc là, Double Brother arrive à des choses qu'elle nous avait fait Marvel. Il y a quelques années, les libraires avaient étaient tellement énervés par ce genre de choses qu'ils avaient franchement menacé Marvel en leur disant, de toute façon, soyons clairs, si vous continuez à pas nous mettre des sollicitations et à sortir les TPB en même temps, on n'achètera plus les fascicules. Ça durera 3 mois avant que vous ne remettiez les sollicitations, parce que il n'y a pas de raison qu'on achète des fascicules sans savoir ce qu'il y a dedans, et qu'en plus derrière, dès qu'il y avait un truc intéressant, de toute façon, ça ressorte en TPB le même mois. Donc voilà, c'était leur coup de gueule à l'époque. Bon, là en même temps, c'est des belles brothers, personne n'y regarde franchement. Mais justement, c'est déjà des petites ventes. S'ils se foutent les revendeurs à dos, ça va leur coûter cher.